magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, c'est l'heure du magazine des Nations Unies. Bienvenue, voici les grands titres de cette émission. L'actualité de la semaine reste dominée par les affrontements entre les FARDC et les militaires rwandais à la frontière. Affrontements qui auraient fait des victimes de part et d'autre. Kinshasa accuse Kigali de violer son territoire, Kigali réfute et la MONUSCO appelle au calme. Retour sur l'événement dans l'actualité de la semaine. Un invité dans cette émission, Dr Mamadou Sakho, il est coordonnateur pays de l'ONU-SIDA en RDC. Il va nous parler du rôle que jouera l'international brésilien David Luiz en tant qu'ambassadeur ONU-SIDA. Vous le comprenez, c'est dans le cadre de la Coupe du Monde Football qui se joue au Brésil. Les enfants de la région des Grands Lacs à l'école de la paix et de la démocratie, c'est ce qu'il faut retenir du Forum de l'Espoir tenu dernièrement à Bujumbura. Il a regroupé les enfants délégués de 7 pays de la région, dont la RDC. Les enfants congolais qui ont participé ont parlé de cette rencontre et de leur contribution dans notre rubrique décryptage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. L'actualité de la semaine, nous vous le disions dans les titres, reste dominée par les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les militaires rwandais à une trentaine de kilomètres au nord de Goma. Affrontements qui ont débuté mardi lorsqu'un militaire congolais a été abattu par l'armée rwandaise. Retour sur les derniers rebondissements avec Jean-Pierre Elali Coco.
Les derniers affrontements en date remontent à jeudi dernier. Ils se sont déroulés dans la localité de Kabagana 2, dans le territoire de Nyiragongo, à une trentaine de kilomètres au nord de Goma. C'est pour la troisième fois consécutive en deux jours que ces affrontements ont eu lieu. Des responsables militaires de la région affirment que ce sont des Rwandais qui ont encore tiré sur les positions des FARDC à partir de leur territoire. Les FARDC ont ensuite riposté. Bilan depuis jeudi, au moins 4 morts côté congolais et un nombre indéterminé de victimes côté rwandais, toujours selon des sources militaires. La population du secteur, elle, reste dans l'observation alors que les deux armées renforcent leurs positions de part et d'autre. La société civile du Nord Kivu s'en inquiète et en appelle déjà à l'implication de la communauté internationale. Entre-temps, Kinshasa n'a pas tardé à réagir. Elle accuse le Rwanda d'avoir violé son intégrité territoriale. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, au micro d'Innocent Olenga.
Nous pensons à un acte délibéré de provocation. On dirait que certains responsables à Kigali sont sérieusement contrariés par la perspective de la réussite de l'opération de désarmement volontaire des FDLR. C'est comme si on leur enlevait le prétexte béni. Il leur a toujours servi à venir pêcher les fruits de leur pillage en République démocratique du Congo et qu'ils veulent empêcher absolument que ceci ne réussisse. J'en veux aussi pour preuve les incidents qu'ils ont provoqués avec la délégation du gouvernement qui devait visiter les anciens combattants M23 à la propre demande du gouvernement rwandais. Et notre délégation a été renvoyée sans ménagement de la frontière alors que Mugada accueillait le même type de délégation. Nous en voulons pour preuve également le fait qu'ils ont abattu le caporal Daïtilo en public et se sont arrangés pour que les soldats congolais voient cela. Donc provocation sur provocation, ce n'est pas une bavure, c'est quelque chose d'intelligent, de sensé et nous voulons vraiment que ça s'arrête.
Des accusations que rejettent les officiels rwandais. Pour sa part, le chef de la MONUSCO s'est dit préoccupé par ces affrontements. Dans un communiqué publié mercredi, Martin Kobler invite les deux parties à désamorcer la tension et à s'abstenir de tout acte de violence. Il les encourage aussi à s'engager de nouveau à la résolution pacifique des questions liées à la délimitation des frontières. Enfin, la MONUSCO dit appuyer pleinement l'initiative qui consiste à recourir au mécanisme conjoint de vérification élargie, initiative visant à mener une enquête exhaustive sur les circonstances des incidents.
Toujours concernant la situation dans l'Est, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations dans l'Est, le général Abdallah Wafi, a confirmé mercredi l'existence d'un projet de cantonnement momentané des FDLR à Irébou dans la province de l'Équateur, ceci en attendant de trouver un autre pays d'accueil pour ceux qui ne voudront pas retourner au Rwanda.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une quinzaine d'enfants congolais ont pris part du 30 mai au 1er juin dernier à Bujumbura au Forum de l'Espoir, forum qui a réuni les délégations d'enfants de 7 pays de la région des Grands Lacs. Objectif, permettre aux enfants de se connaître, mais aussi d'échanger sur la paix et le dialogue, deux préalables essentiels pour le développement dans la région. Le magazine des Nations Unies reçoit 3 enfants congolais qui ont participé à cette rencontre. Ils s'entretiennent avec Jean-Pierre Elali Coco sur la contribution congolaise, ainsi que sur les recommandations et le succès de ce forum.
Denis Mumba, Carmel Ndomba, Deo Kasunika, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous des enfants congolais. Vous avez participé au forum de l'espoir des enfants tenu à Bujumbura, capitale du Burundi, du 30 mai au 1er juin. Alors, première question à Denis Mumba. Pourquoi est-ce que vous avez été à cette conférence?
Ok, donc nous sommes partis dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs.
Voilà, c'est bien. Là, je pose la question à Carmel. Quelles ont été les matières qui ont été abordées au cours de ces forums?
On a parlé des problématiques qui guettent la paix et la sécurité dans la région, entre autres les violences sexuelles, l'enrôlement des enfants soldats, les enfants réfugiés et tout. Et chaque pays a essayé un peu de relever les problématiques et ensemble, on a relevé les sujets communs dans la région.
Quelle a été la composition de la délégation congolaise? La question est posée à Eunice.
On a pris les enfants de toutes les provinces, 3 de Kinshasa, 1 du Bas-Congo, du Bandundu. Dans les 2 cassés, on a pris un enfant, du Maniema, 2 enfants, aussi du Nord-Kivu, un enfant. Donc chaque province était représentée.
Donc vous étiez 11 enfants?
Non, 15 enfants. Nous étions 15 enfants.
Oui.
Nous étions 15 enfants à aller représenter la RDC et voilà.
Et les plus âgés avaient quel âge? Je sais que vous, personnellement, vous avez 14 ans.
17 ans. Il avait 17 ans et il était du Maniema.
Oh, voilà. Comment il s'appelle?
Hugues.
Hugues, ok. Et alors, maintenant, qu'est-ce que la délégation congolaise a apporté à ce forum? Là, c'est Edeo qui répond à la question.
La contribution des enfants de la RDC a été le message de paix que ces enfants ont amené, le dialogue.
Entre qui?
Entre les enfants de la région. Donc, les enfants de la RDC ont amené le message de dialogue pour la consolidation de la paix. Et nous avons exhibé les pas des danses de nos cultures pour dire que, malgré qu'il y a des différences des cultures, nous devons vivre en unité.
Ah, c'est intéressant. Vous avez parler des pas de danse, vous avez dansé ton, vous avez chanté quoi?
C'était en fait un métissage des cultures. C'est du Bandundu ont amené leur culture et c'est du Kassai. Donc c'était un métissage des cultures.
C'était des danses et des chansons?
Oui, des danses et des chansons.
Ah, ok. Parlez un peu d'autres délégations. Vous aviez la délégation congolaise et quelle autre délégation? Et là, c'est Eunice qui peut parler.
Il devait normalement avoir 13 pays. Il n'y en a eu que 7.
Lesquels?
L'Ouganda, le Burundi, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Rwanda ainsi que
le Soudan.
Mmh. Mais la République centrafricaine malheureusement n'a pas pu venir à cause de
la situation, qui se
voilà,
passe,
de,
oui.
Des troubles qui
oui. Alors nous allons parler des résolutions ou même des recommandations. Là c'est Deo qui va en parler. Deo, qu'est-ce que vous avez retenu comme recommandation au cours de ce forum?
Merci pour la question. Les enfants de chaque pays ont amené leur déclaration au mémorandum qu'on a mis ensemble pour ressortir la déclaration régionale des enfants.
C'est vous qui avez lu cette recommandation ou
oui.
Ces recommandations?
Oui, j'ai lu la déclaration en version française. Bon, dans la déclaration, il y a eu catégorie des obligateurs.
Et des obligateurs, là, ce sont des gens à qui s'adressent ces recommandations.
Oui.
Ah, il faut expliquer aux gens comme ça, oui.
Les gens à qui s'adressent les recommandations.
Oui.
Donc, il y a, le Parlement, les gouvernements des pays, la communauté internationale et Mary Robinson comme envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies.
Alors, commençons par les gouvernements.
Oui. Pour le gouvernement, il y a eu de nombreuses recommandations, mais les majeures sont les suivantes. Nous avons recommandé au gouvernement des pays de la région de s'occuper des enfants réfugiés, de créer un conseil ou bien un forum régional des enfants, un comité régional des enfants. Donc, il y a eu ces recommandations. On a demandé au Parlement de la région de renforcer des lois contre l'impunité et de mettre ensemble un Parlement régional pour parler des situations des enfants dans la région de Grand Lac.
Et qui devrait composer ces parlements régionaux? Ce sont les enfants essentiellement.
Ce sont les enfants essentiellement.
Et oui, et d'autres recommandations.
Pour la communauté internationale et Mary Robinson, on a demandé que la communauté internationale puisse aider les pays de la région dans la mise en œuvre de l'accord cadre.
Je pense que vous avez été aussi nommé ambassadeur au cours de ce forum.
Oui, parmi les moments forts du forum, il y a l'élection des ambassadeurs, parce qu'on était 7 pays qui ont participé. De ces 7 pays, on devait ressortir 4 enfants qui vont présenter les clauses du forum à la conférence des présidents pour la jeunesse qui aura lieu à Nairobi. Il y a 4 ambassadeurs, dont moi,
et de la République démocratique du Congo.
Donc,
Deo Kusanuka.
Oui. Il y a eu moi, quelqu'un du Soudan, du Rwanda et du Burundi.
Donc, vous êtes 4 ambassadeurs.
4 ambassadeurs.
Merci beaucoup. Et maintenant, nous passons à Carmel. Carmel, vous avez suivi Deo tout à l'heure. Il a parlé des recommandations, des temps forts de ces forums. Alors, en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous avez retenu de ces forums pour l'avenir?
En fait, notre vision d'avenir, d'abord à court terme, c'est la restitution du forum au niveau d'abord provincial, national, auprès des autres enfants qui ont été avec nous au forum national.
Et comment vous allez le faire ici en République démocratique du Congo?
En République, d'abord, à travers d'abord les médias, chez les autorités.
C'est ce que vous faites là maintenant,
oui,
par exemple.
Oui. Chez les autorités, chez les enfants avec qui nous avions été au forum national. Et à moyen terme, nous espérons d'abord avoir un parlement d'enfants. Et ce que nous déplorons d'abord, c'est que parmi les 7 pays qui étaient présents, la plupart ont déjà des parlements d'enfants ou des forums d'enfants. Alors que nous, la RDC, n'en a presque pas. Donc, c'est déjà un pas en arrière. Et peut-être qu'à long terme, qu'on pourrait avoir une région de Grand Lac en paix et que les enfants pourront ensemble discuter et vraiment travailler sur les questions des pays de consolidation.
Et vous avez parlé des échanges dans l'avenir avec les enfants d'autres pays sur le plan culturel. C'est ce qui fait aussi les dialogues.
Comme Deo l'avait dit, il y a eu des échanges culturels. Plusieurs enfants ont fait des pas de danse, des chants traditionnels. Ce qui a un peu montré que malgré les différences culturelles des langues et tout, les enfants pouvaient faire quelque chose ensemble. Donc c'est déjà un pas en avant.
C'est quelque chose que vous allez aussi essayer de renforcer dans l'avenir.
Oui, on va essayer de promouvoir la paix, comme on le fait là dans les médias. Sûrement que les enfants qui nous entendent en ce moment vont bien comprendre. Je veux lancer un message à tous les enfants qui nous entendent en ce moment, de leur dire que même si le Rwandais, les Burundais, les Ougandais sont différents culturellement de nous, mais nous sommes tous les enfants d'une même région. Et si nous ne sommes pas en paix, sûrement qu'il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de sécurité.
Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions là des enfants congolais qui ont participé au forum de l'espoir des enfants tenu récemment à Bujumbura, capitale du Burundi. Et j'ai dit à Eunice Mumba, Carnel Ndomba, Deo Lusamba, merci d'être venu à notre studio.
Merci.
Merci.
Merci. Merci.
Commençons nos nouvelles en bref avec le PNUD qui œuvre pour le renforcement de la bonne gouvernance. Cette agence des Nations Unies a organisé la semaine dernière à Kinshasa un atelier sur l'identification des bonnes pratiques du contrôle citoyen de l'action publique. Une 60aine de délégués de la société civile de Kinshasa, du Nord Kivu, du Bas-Congo, du Kassai-Oriental et de l'Équateur ont pris part à cette formation. La promotion de la bonne gouvernance démocratique est un enjeu crucial au développement humain durable, lit-on dans un communiqué de presse du PNUD rendu public jeudi dernier. Des centaines d'enfants d'une 60aine d'écoles privées de scolarité dans la zone comprise entre Malemba-Koulou, Manono, Mitwaba, Nyunzu et Pweto. Vous l'avez compris, nous sommes dans le Katanga. Cette information a été donnée dans une note de Ocha rendue publique à l'issue de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. En fin 2013, plus de 42 000 enfants de 6 à 11 ans, soit 50% d'entre eux, sont des retournés, déplacés, répertoriés dans ces territoires, précise la source. L'instabilité sécuritaire et le manque de moyens financiers seraient les principales raisons de cette situation. Enfin, nous sommes depuis jeudi dernier en pleine Coupe du Monde. La MONUSCO est dans la fête. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a lancé l'opération mondiale pour tous. Opération qui consiste pour la MONUSCO à diffuser les matchs de cette Coupe du Monde. Les projections publiques de ces matchs ont lieu simultanément à la gare centrale, en plein centre-ville et à la place de l'échangeur dans la commune de Limité. Les jeux concours et quelques animations musicales accompagnent ces projections.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Une fois n'est pas coutume, le magazine des Nations Unies vous plonge dans une certaine mesure dans la Coupe du Monde Brésil 2014. David Luiz, c'est l'un des joueurs brésiliens qui sera le plus suivi dans ce rendez-vous mondial. Ce footballeur a été nommé ambassadeur ONU-SIDA et nous recevons dans cette émission le coordonnateur pays de l'ONU-SIDA RDC, le docteur Mamadou Sakho. Il va justement nous parler du rôle que va jouer David Luiz dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA à travers le monde. Docteur Mamadou s'entretient avec Honoré Missinga-Kalala.
Docteur Mamadou Sakho, bonjour.
Bonjour, monsieur Honoré.
Brésil 2014 a démarré jeudi 12 juin, comme prévu. Je pense que vous comprenez, il s'agit de la Coupe du Monde. L'ONU-SIDA s'était déjà invité à cette fête mondiale en nommant le 16 avril dernier le footballeur brésilien David Luiz, ambassadeur de bonne volonté. Cette nomination porte quel message pour l'ONU-SIDA?
Merci. En effet, David Luiz Moreno est champion brésilien de football et vice-capitaine de l'équipe nationale du Brésil, qui évolue également au niveau du club de Chelsea en Angleterre. Il nous a convaincus qu'avec son cœur et sa passion, il peut faire une vraie différence pour sensibiliser des millions de jeunes et apporter un soutien à l'ONU-SIDA. En faisant un grand plaidoyer également et une bonne sensibilisation, il aidera également à mobiliser les fans du football dans le monde, en particulier les jeunes, mais grâce à d'importants messages qu'il va viser sur les phénomènes de discrimination, de stigmatisation, il va plaider pour la prévention du VIH et pour l'accès au traitement pour les personnes qui vivent avec le virus. Et pendant la Coupe du Monde, comme vous le savez, tout le monde aura les yeux rivés sur le Brésil et David Luiz sera un modèle d'inspiration, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, car il exploitera sa popularité, il exploitera également sa capacité de sensibiliser. Pour nous, c'est vraiment un grand événement, une opportunité footballistique qui va se passer et que nous sommes sûrs ce sera d'un impact extraordinaire pour obtenir de bons résultats. Nous l'avons déjà vu lors du lancement de la campagne Protect the Goal qui a été lancée.
C'est le premier ambassadeur ONU-SIDA?
Non, il y en a eu d'autres. Il y a bien entendu Roger Milla, ambassadeur de l'ONU-SIDA depuis 2001. Il y a également Emmanuel Adebayor, qui était également ambassadeur de l'ONU-SIDA, de même que Michael Ballack, qui était également de Chelsea. Donc, on a eu dans le passé quand même des ambassadeurs. C'est vrai, il y a également l'Ivoirien Gervino, qui est également un ambassadeur. Mais tout cela rentre dans le sens de contextualiser cette Coupe du Monde dans le pays, le Brésil, qui est un grand pays avec une préoccupation de VIH élevée. C'est pour cela qu'il s'attend bien.
Alors pourquoi l'ONU-SIDA portait son choix sur David Luiz? Pourquoi pas Messi ou Cristiano Ronaldo? Pourquoi pas Neymar qui est aussi brésilien?
Oui, il y a même beaucoup d'autres compétences, mais le choix est aussitôt lié à la passion, l'engagement, mais également au palmarès de David Luiz. Vous savez, David a fait plus d'une cinquantaine de sélections, il est très jeune et il a été une star dans son rôle de milieu défensif. Et donc nous pensons que à tout moment et à toutes circonstances, en tout lieu actuellement dans le Brésil, c'est vraiment un lieu d'espoir, c'est à cause de cela. Pour nous, c'est une question également de thématique. Il y a beaucoup d'autres domaines auxquels, effectivement, Gervino, d'autres personnes feraient également la différence, en Afrique de l'Ouest, par exemple.
Vous l'avez peut-être effleuré un peu plus loin. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'un ambassadeur ONU-SIDA?
Un ambassadeur ONU-SIDA, ce qu'on attend, c'est une amplification de la réponse et c'est également des décideurs au niveau mondial, de la communauté mondiale, mais surtout par rapport aux fans, aux jeunes garçons, aux jeunes filles qui constituent des références, des idoles. Et pour nous, effectivement, il est l'une des personnalités les plus en vue à l'état actuel au niveau du monde du football. Donc son apport, on l'a estimé, on l'a évalué. Au niveau de l'Asie également, il y a des groupes qui sont très décidés au niveau footballistique. Pour nous, aussi bien le football que le basket ou d'autres sports, dans leur pluridisciplinarité, donnent un bond de plus par rapport à l'objectif que nous voulons d'ici 2015.
Docteur Mamadou Sakho, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait judicieux de continuer cette expérience en la dupliquant au niveau régional ou national, par exemple, en nommant un ambassadeur ONU-SIDA Région Afrique ou un ambassadeur ONU-SIDA LDC à travers des grands événements sportifs?
Absolument, nous avons tenté ça depuis longtemps. Roger Mela, je viens de le citer, j'ai fait 5 ans au Cameroun il y a quelques temps. J'ai été également impressionné par Gervino qui a été nommé. Donc pour nous, l'Afrique a même besoin de ce type d'ambassadeurs et d'envoyés spéciaux qui sont une célébrité dans le sport et dans beaucoup d'autres disciplines. Donc pour nous, nous allons continuer nos réflexions. C'est la même chose qu'au niveau de la RDC, l'Afrique centrale, au niveau du tout-puissant Mazembe. Partout, on peut sélectionner des meilleures célébrités, aussi bien de l'art que de la musique, que de toutes les formes d'expression artistique où les jeunes se retrouvent pour qu'ils soient des références.
Une question sur la RDC. Selon le PNMLS, le Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida, la RDC compte actuellement 600 000 personnes infectées. Un commentaire par rapport à ce chiffre?
Oui, le commentaire c'est qu'effectivement c'est vrai, c'est un demi-million de personnes estimées vivant avec le VIH particulièrement, et de façon plus précise c'est 481 000 personnes, dont 59% sont les femmes. Il faut seulement dire que c'est une épidémie généralisée avec des disparités dans les provinces, particulièrement les provinces de l'Est semblent être plus touchées que celles de l'Ouest, mais également des groupes beaucoup plus exposés, beaucoup plus touchés. La séropositivité chez les groupes à risque tels que les prostituées est estimée à 36%, chez les MSM 37%, donc il y a des groupes beaucoup plus exposés. Les conditions de violence sexuelle et de pauvreté également sont des facteurs déterminants. Donc l'épidémie est sous contrôle à toute fin utile, et l'épidémie est très bien contrôlée.
Nous avons de bons résultats. Sous contrôle en RDC?
Oui, oui, absolument, parce que nous sommes à 1,1% de séroprévalence, donc pour nous c'est stabilisé, c'est pas totalement inversé, mais quand même l'évolution est bien stabilisée.
Alors, quid du financement annoncé par le Fonds mondial? On a parlé de 700 millions. Est-ce que le gouvernement a déjà donné sa quote-part qui était de, ou qui est de 5%?
Oui, c'est les fonds de contrepartie qu'on exige souvent, qui sont estimés entre 5 à 15%, qui fait que le gouvernement, effectivement, devra signer cela. À l'état où nous parlons, c'est un processus. On n'a pas encore un processus d'encaissement. L'argent n'est pas pris de la RDC vers ailleurs, non. Ce qu'on estime, c'est quelle est la contribution au niveau de tout ce qui est fait dans ce pays comme étant des fonds de contrepartie. Donc, le gouvernement, effectivement, est prêt à s'engager à ces contributions et nous sommes sûrs que ce sera étalonné jusqu'en 2017 pour voir, effectivement, cette contribution à hauteur de 5%.
Puisque nous sommes dans la Coupe du Monde, est-ce que l'ONU, SIDA, RDC a un pronostic à faire par rapport à la participation des équipes africaines?
Oui, nous sommes optimistes. Nous pensons et nous souhaitons vivement que, au moins jusqu'au niveau des quarts de finale, nous sommes optimistes que nos sélections africaines pourraient aller jusqu'au quart de finale, voire même jusqu'à la finale, parce que les équipes sont très performantes et nous souhaitons cela pour l'Afrique.
Docteur Mamadou Sakho, merci.
Merci beaucoup, Honoré.
Notre nouvelle de province nous emmène au Sud Kivu avec cette déclaration de différents responsables des services de l'État ayant l'enfant et le travail dans leur attribution dans cette province. Ils ont rappelé que recruter les enfants en qualité de main-d'œuvre pour exercer des travaux lourds est une infraction punissable par la loi. Ils l'ont déclaré jeudi dernier. C'était à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, commémorée le 12 juin de chaque année. Toutefois, aucune manifestation n'a été organisée sur toute l'étendue de la province. La chef de bureau de l'UNICEF de cette province a préféré coupler les cérémonies commémoratives de cette journée avec celle de la Journée de l'enfant africain, le 16 juin prochain. Cependant, Bertha Traviesco rappelle que la place des enfants, c'est à l'école. Elle le dit au micro de Jean Cassani.
Beaucoup d'enfants sont sortis de l'école pour devoir travailler pendant de très longues heures. C'est un problème, pas seulement au Sud Kivu, évidemment, dans tout le Congo et dans beaucoup de pays du monde. Il y a plus de 100 millions d'enfants qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas acceptables. C'est normal que les enfants puissent aider les familles. On ne dit pas qu'ils ne peuvent pas travailler. Ils doivent pouvoir aider les familles, mais que ce ne soit pas de l'exploitation et des travaux trop durs qui mettent leur santé en danger. D'abord, s'il n'est pas permis d'employer des enfants dans du travail, comme on le voit, des enfants qui travaillent dans la construction, dans les mines, que les parents réfléchissent qu'un enfant à l'école, c'est le futur. Parce qu'un enfant qui commence à travailler à l'âge de 10 ans, quel futur il va avoir ?
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question du jour porte sur la CPI. Elle a été posée mercredi dernier à partir de Goma. C'est Paul Madidi, porte-parole de la Cour pénale internationale, bureau de la RDC, qui y répond. Suivez la question et la réponse.
Papier au kit du journal Écho d'Opinion. Ma question, je l'adresse à Paul Madidi de la CPI. L'opinion congolaise remarque que les procès de la CPI sont des procès internels. Le dossier Jean-Pierre Bemba, apparemment, il n'y a pas de suite. Pour le cas des indemnisations, est-ce qu'on va indemniser seulement des amis de l'Ituri ou c'est partout là où il y a eu des bavures?
Merci pour la question. En ce qui concerne les indemnisations, comme vous dites, les réparations, c'est le mot technique, les réparations interviennent après jugement, c'est-à-dire après les procès. Il n'y a eu pour l'instant que deux condamnations après procès, Monsieur Lubanga et Germain Katanga, donc il y aura des décisions qu'on va prendre en termes de réparation, profit des victimes. Mais à côté des réparations, il y a ce qu'on appelle le fonds au profit des victimes, qui est en train de travailler, notamment sur des projets en Ituri, mais également sur des projets que d'autres structures à l'Est peuvent lui soumettre. Les procès qui sont longs, j'ai envie de dire que c'est normal, vu les procédures qui sont très longues. Mais il n'y a personne qui a envie de voir ces procédures ou ces procès s'allonger. On ne parle pas ici dans ces procès des vols de cacahuètes au coin de la rue. Il s'agit quand même des milliers de personnes qui sont victimes. Ça prend du temps. Il faut donner le temps à chaque partie de se préparer convenablement au procès. Voilà pourquoi ça prend du temps. Mais les choses sont faites de manière à ce que les accusés voient leur procès ne pas durer.
Magazine des Nations Unies. Portrait des îles.
Je m'appelle Roger Kambou Mavinga. Je suis père de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Je suis marié. J'ai commencé mes études primaires à l'école primaire Kinkenge avant d'aller poursuivre en Tserengouba dans le Bas-Congo. Et par après, j'ai eu mon diplôme d'état à l'Institut Kinkenge. Et par après, je suis venu à l'INEKI en économie avant d'aller à Genève pour faire toujours l'économie. Je suis revenu au pays en 89 où j'ai été recruté par l'IBIT. J'ai assumé plusieurs tâches de chargé des partenaires, chargé des relations avec celui-ci, avec celui-là, chargé de la communication. Et depuis le 1er janvier 2000, je suis dans l'unité programme comme chargé de programme. Je n'ai pas travaillé ailleurs depuis que j'ai terminé. J'ai travaillé au BIT. 1er décembre 2014, j'aurai 25 ans d'expérience au BIT à différents postes. Je suis parti en détachement également pour travailler pour le gouvernement des États-Unis à travers un programme de prévention et de recrutement des enfants affectés par les conflits armés. Pendant 3 ans comme coordinateur, j'ai travaillé aussi pour la Norvège à travers un programme géré par les BIT de prévention et de réintégration des enfants affectés par les conflits armés en RDC et au Burundi pendant une année avant de revenir. Parce que les BIT permet quand même que lorsqu'on est au bénéfice d'un contrat sans limitation de durée, on peut partir en détachement pour parfaire un cursus académique ou pour pouvoir assumer des charges voilà, politiques, scientifiques, etc. Et là donc, je prépare voilà, une thèse en économie rurale à l'Université de Lubumbashi. Je me réveille chaque jour à 4h30 ou à 5h du matin. À 5h, 5h30, je me mets en route. À 6h ou plus tard, je suis au bureau tous les jours. Donc, tous les collègues savent, au niveau du système des Nations Unies, que s'il y a des collègues qui arrivent tôt au bureau, je suis parmi les premiers. Quand j'arrive, je prépare toujours un ours sur les urgences de la journée. Et je ne quitte pas mon bureau sans que je n'aie terminé ce que j'ai à faire ce jour-là. Je mets les bouchées doubles pour faire en sorte que les urgences de la journée s'écoulent. Et si j'ai des réunions les soirs ou dans les après-midi, je me sacrifie parfois pour quitter tard les bureaux. Je suis un fervent chrétien. Je suis très engagé dans le service du Seigneur. Donc, on s'organise pour apporter secours aux autres qui ont des problèmes, pour les écouter, pour les conseiller. Je participe aussi sur sa CC, Sangomala, moi, certaines émissions. J'écoute vraiment musique chrétienne. En voiture, très souvent, j'adore le Seigneur. Même si on est incolore au niveau du système des Nations Unies, mais chacun a sa conviction. Et puis, à la maison, on a de la visite, on s'occupe de la famille, on s'occupe des amis, on fait un peu de marche. J'aime bien le foot, je sais faire du foot. Même quand il faut manger, je préfère parfois sacrifier. sacrifier, suivre d'abord les matchs de foot. À l'époque, au sein du système de la Zouzou, on avait une équipe de foot dont j'étais le vice-capitaine aussi. Comme tout bon Congo qui se respecte, j'aime bien le fait des maniocs préparés avec l'haricot, servi avec les riz, on lâche quoi, ça comme des soupes et les poissons salés. On ne se braque pas, on ne se barricade pas. Il y a l'ambition, il y a la flexibilité. C'est vrai qu'on ne forge pas la nature, mais tout est parti de mon enfance parce qu'on a été orphelin très jeune. On nous a fait déposséder de tout. Donc on a grandi difficilement. Il fallait tailler son chemin sur le roc. On ne se dispersait pas. On est focalisé vers le lendemain meilleur, vers des objectifs nobles, à la fois au niveau du service, au niveau du pays.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Et voici quelques rendez-vous à noter dans vos carnets. D'abord, vous avez le 16 juin, lundi déjà, ce sera la journée mondiale de l'enfant africain. Un jour après, soit le 17 juin, la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le 19 juin, la journée mondiale de la drépanocytose. Et enfin, le 20 juin, la journée mondiale des réfugiés. La fin de ce numéro du magazine des Nations Unies, présenté par Mila Kimbuni avec l'assistance technique de Paul Badianyama, supervisé par Nicole Ngaka, coordonné par Jean-Pierre Elali Coco et Honoré Missenga était au reportage. Vous pouvez également retrouver le magazine sur notre site internet www.radiocapi.net. Envoyez-nous vos suggestions, vos questions et même vos remarques en postant un commentaire en dessous de l'émission sur notre site internet ou en nous appelant directement au 082 30 76 630. Notre adresse mail magun@radiocapi.net. Je vous souhaite un très bon dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.